Dans la suite de notre série, donc, comme Jean-Paul vient de le préciser, sur le témoignage annoncer l'évangile aux musulmans, donc je vous propose ce matin de réfléchir sur ce que les musulmans croient. La dernière fois, nous avons abordé les musulmans en France. Qui sont-ils aujourd'hui? Ceux qui croient. Et la dernière fois, prochainement, nous aborderons des pistes concrètes de témoignage. Et pour introduire cet institut public, je vous invite à lire un passage dans le livre des Actes, à partir au chapitre 17. C'est le discours, enfin, c'est Paul à Athènes. Je vais commencer la lecture à partir de verset 16. Actes, chapitre 17, à partir de verset 16. Quand Paul les attendait, Sélas et Timothée, quand Paul attendait Sélas et Timothée à Athènes, il avait en lui-même l'esprit exaspéré en contemplant cette ville vouée aux idoles. Il s'entretenait dans les synagogues avec les juifs et ceux qui craignaient Dieu et sur la place publique chaque jour avec ceux qui s'y rencontraient. Quelques philosophes épicuriens et stoïciens se mirent à parler avec lui et les uns disaient « Que veut dire ce discours ?» D'autres disaient « Il semble être un prédicateur de divinités étrangères, cela parce qu'il annonçait la bonne nouvelle de Jésus-Christ et de la résurrection. » Alors ils le prirent, le menèrent à l'aréopage et dirent « Pourrions-nous savoir quel est ce nouvel enseignement dont tu parles ? Car tu portes à nos oreilles des choses étranges, nous voudrions donc savoir ce que cela veut dire. » Or, tous les Athéniens et les étrangers venus parmi eux ne passaient leur temps qu'à dire ou écouter quelques nouvelles. Paul, debout au milieu de l'aréopage, dit « Athéniens, je vois que vous êtes à tous égards extrêmement religieux, car en passant, j'ai observé tout ce qui est l'objet de votre culte. J'ai même trouvé un autel avec cette inscription à un dieu inconnu. Ce que vous vénérez sans le connaître, c'est ce que je vous annonce. Le dieu qui a fait le monde et tout ce qui s'y trouve, lui qui est le Seigneur du ciel et de la terre, n'habite pas dans les temples faits par les mains humaines. Il n'est pas servi par des mains humaines, comme s'il avait besoin de quoi que ce soit, lui qui donne à tous la vie, le souffle et toute chose. Il a fait que toutes les nations humaines issues d'un seul homme habitent sur toute la surface de la terre. Il a déterminé dès les temps fixés pour eux et les bornes de leur demeure, afin qu'ils cherchent Dieu pour le trouver, c'est possible, en tâtonnant. Or, il n'est pas loin de chacun de nous, car en lui nous avons la vie, le mouvement, l'être. C'est ce qu'ont dit aussi quelques-uns de vos poètes, nous sommes aussi de sa race. Ainsi donc, étant de la race de Dieu, nous ne devons pas penser que la divinité soit semblable à de l'or, à de l'argent ou à de la pierre sculptée par l'art et l'imagination des hommes. Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes en tout lieu qu'ils aient à se repentir, parce qu'il a fixé un jour où il va juger tout le monde selon la justice par un homme qu'il a désigné, et il en a donné à tous une preuve digne de foi en le ressuscitant d'entre les morts. Lorsqu'ils entendirent parler de la résurrection des morts, les uns se moquèrent et les autres disent « Nous t'entendrons là-dessus une autre fois ». Ainsi Paul sortait du milieu d'eux, quelques années au moins s'attachèrent à lui et crurent, parmi eux Denise, l'aréopagite, une femme du nom de Damaris et d'autres encore. Jusqu'ici, la lecture de la parole de Dieu. Nous avons ici un bel exemple, l'exemple de l'apôtre Paul, un bel exemple à suivre en matière de l'annonce de l'évangile. Trois choses à souligner rapidement avant d'arriver au contenu de mon institut. D'abord, la première chose que j'aimerais tirer de cet exemple de Paul, c'est le temps que Paul prend pour s'informer et se former au sujet de ses interlocuteurs. Paul s'est formé au sujet de ses interlocuteurs. Il sait ce que ces gens, les Athéniens, pensent. Il sait ce qu'ils pensent pour pouvoir bien leur annoncer l'Évangile. Contrairement à ce qu'il fait habituellement, lorsqu'il rentre dans une synagogue, l'apôtre Paul ne cite pas l'Ancien Testament. Il ne cite pas les écrits de l'Ancien Testament. Mais c'était les anciens, l'Ancien Testament n'aurait aucun sens pour ces gens d'Athènes. Mais au contraire, ils citent leurs philosophes. Et ils citent en particulier les stoïciens et les épicuriens. En effet, à Athènes, qui est à mi-chemin entre Jérusalem et Rome, était une capitale brillante et intellectuelle du monde gréco-romain de l'époque. Et Paul commence son discours par souligner la générosité, la religiosité, pardon, des Athéniens, bien qu'il ait dit, il était exaspéré par leur, en voyant toutes ces idoles. Et ensuite, il se réfère aux deux écoles importantes de philosophie qui a influencé la ville d'Athènes, à savoir donc les épicuriens et les stoïciens. D'abord, il cite l'école épicurienne au verset 25 lorsqu'il dit « Dieu n'a pas besoin de service des hommes ». Il cite exactement leur philosophe. Et par la suite, il cite l'école stoïcienne à deux reprises dans ce passage que je viens de vous lire. D'abord au verset 26 lorsqu'il dit « En Dieu, nous avons la vie, le mouvement et l'être ». Ou encore lorsqu'il dit « Nous sommes de sa race ». Et là encore, il cite leur philosophe, donc il maîtrisait très bien ce qu'il pense. Donc, Paul ne se contente pas simplement de maîtriser l'Ancien Testament, mais aussi de connaître un peu ce que ses interlocuteurs, les personnes pour lesquelles il voulait annoncer l'Évangile, savent et connaissent. Il prend le temps de se former et de s'informer à leur égard pour leur annoncer l'Évangile d'une manière adaptée pour que l'Évangile soit puissance de Dieu pour quiconque croit. Donc, si nous voulons communiquer l'Évangile de Jésus-Christ à notre génération, nous n'avons pas d'autre choix que de prendre le temps de connaître, d'apprendre qui sont ces gens. Et en l'occurrence, si nous voulons annoncer l'Évangile aux musulmans, nous sommes invités à connaître un peu les bases doctrinales de ces musulmans, ce que nous allons faire tout à l'heure. Deuxième chose que j'aimerais souligner de l'attitude de l'apôtre Paul, c'est qu'il établit des ponts. Il établit des ponts, il cherche à établir des ponts entre la foi chrétienne et ce que pensent ses interlocuteurs. En plus donc de connaître la culture religieuse des Athéniens, Paul va maintenant plus loin en essayant de trouver des lieux de rencontre sur le plan théologique pour les conduire à aller plus loin et à rencontrer le Seigneur. D'une manière très habile, Paul part de ce Dieu inconnu, vénéré par les Athéniens, pour arriver au Dieu, créateur de toutes choses, révélé par le Seigneur Jésus-Christ. Dans nos milieux chrétiens évangéliques en particulier, certains, malheureusement, creusent encore des fossés et parfois même construisent des murs entre la foi chrétienne et le reste du monde, et même parmi les musulmans, mais pas seulement. Mais tel n'est pas mon choix, tel n'est pas notre choix. Nous aimerions construire des ponts nous permettant d'aller rejoindre les gens là où ils sont pour leur annoncer l'Évangile de notre Seigneur Jésus-Christ. Il y a de nombreux sujets théologiques que j'exposerai tout à l'heure sur lesquels que nous pouvons exploiter pour permettre à nos amis, voisins musulmans, de parvenir à la connaissance du seul vrai Sauveur Jésus-Christ. Enfin, dernière vérité évangélique, dernière chose que j'aimerais souligner de l'apôtre Paul, c'est de dire la vérité évangélique. L'apôtre Paul, il connaît bien sûr la pensée des Athéniens et il sait que pour eux, la résurrection est quelque chose, ils sont allergiques à la question de la résurrection. C'est développé dans leur philosophie à plusieurs reprises, mais l'apôtre Paul ne se laisse pas arrêter par cela. Il n'a pas eu peur d'aller jusqu'au bout et justement de leur annoncer, de leur dire la vérité évangélique, y compris sur le sujet qui fait vraiment débat au milieu d'eux. Donc, dans notre annonce aussi de l'évangile à nos amis musulmans, nos voisins, amis musulmans, nous n'allons pas fabriquer un évangile spécial pour eux. Vous savez qu'il y a certains, de la même manière qu'ils parlent de juifs pour Jésus, commencent maintenant à parler de musulmans pour Jésus. Je ne vais pas rentrer dans le contenu de ce mouvement, enfin de l'enseignement de ce mouvement, mais je pense que c'est aller trop loin, au point de vouloir même pas prononcer le nom de fils de Dieu, parce que ça heurterait la sensibilité des musulmans. Au contraire, ici l'apôtre Paul, même si la résurrection peut heurter ses interlocuteurs, les Athéniens, mais il a abordé le sujet. Il nous faut donc avoir aussi le courage de dire la vérité dans l'amour, mais de dire la vérité, car c'est elle et elle seule, le Jésus de l'Évangile, c'est lui seul qui peut sauver, et ce n'est pas un autre Jésus. Donc Paul nous laisse ici un bel exemple, prendre le temps de s'informer et de se former, chercher à établir des ponts et dire enfin la vérité dans l'amour. Et c'est ce que j'aimerais vous proposer à présent pour commencer maintenant à établir un peu, à parler de contenu de la foi musulmane, j'aimerais procéder en trois parties. D'abord, faire un petit rappel historique sur les débuts de l'islam, pour prendre le recul nécessaire. Ensuite, à évoquer les dogmes importants de la religion musulmane pour comprendre les différentes notions théologiques, et enfin terminer par les différentes écoles théologiques pour ne pas confondre tout le monde et essayer au mieux de faire la différence entre les uns et les autres. Avant de poursuivre, j'aimerais vous donner quelques références bibliographiques, mais je vois qu'elles sont déjà annoncées. D'abord, si vous êtes intéressé sur la question de l'islam d'une manière générale, vous avez le livre de Boubaker, Cheikh Hamza Boubaker, c'est en fait le père du recteur actuel de la mosquée de Paris. C'est un musulman qui parle de l'islam, c'est très bien fait, très bien écrit. Si vous voulez le lire, c'est vraiment, il résume, il synthétise d'une belle manière la théologie musulmane. Sinon, un livre d'un universitaire, Karatini Roger, c'est l'islam, cet inconnu, qui est très intéressant si vous voulez prendre vraiment le temps aussi de réfléchir. Ou encore, un autre universitaire, c'est Amir Moazi, et là c'est un dictionnaire du Coran, là c'est bien de l'avoir même pour consulter, c'est fait par des universitaires, ce sont des articles, souvent avec une bibliographie à la fin, sur plein de sujets à la manière un peu de dictionnaire de la Bible, et donc si vous êtes intéressé sur un sujet, vous ouvrez le dictionnaire. En plus, il y a une édition de poche, je crois, qui revient à peu près à une trentaine d'euros, et ça a été publié en 2007. Oui, pas 17, mais 2007, oui, voilà. Ensuite, si vous voulez, des ouvrages chrétiens qui sont écrits par les chrétiens sur l'islam, et là, il y a, mais ça c'est une petite contribution que vous connaissez déjà, de Jamil Chabou, mon ami Jamil et moi-même, nous avons écrit quelque chose de très rapide sur l'islam. Sinon, c'est Shawkat Moukari, très bon ouvrage qui reste toujours d'actualité. Il y avait une deuxième édition récente, encore Christine Scheiermacher, qui est édité encore là pour, surtout si vous travaillez parmi dans les milieux musulmans, je pense avoir le livre de Christine Scheiermacher, il est un peu cher, mais l'avoir est quelque chose aussi qui peut vraiment vous aider si vous voulez vérifier quelque chose à la dernière minute. Enfin, quelques ouvrages pour des références sur des sujets précis, mais là je pense qu'on peut passer directement, on reviendra à un autre moment. Donc, je passe à la première partie donc de mon thème. Contrairement au judaïsme qui tire le nom de la religion, de nom du peuple juif, et contrairement au christianisme qui tire le nom de sa religion du nom de son fondateur, Christ, l'islam ne tire pas son nom ni du nom de son fondateur, c'est-à-dire Mohammed, ni du nom de son peuple dont il est issu, c'est-à-dire les Arabes. Mais islam serait un terme qui vient, qu'on retrouve dans l'un des derniers textes que Mohammed aurait laissé à la communauté musulmane, c'est le Coran 5, et là où il leur a dit « Aujourd'hui, j'ai parachevé pour vous votre religion et je vous ai accordé mon entier bienfait, j'agrée pour vous l'islam comme religion. » C'est le Coran 5, le verset 3. Donc, « J'agrée pour vous l'islam comme religion. » Que veut dire la racine islam? Étymologiquement, sur le plan purement étymologique, ça veut dire « paix ». C'est la même racine en hébreu que « shalom », ce qui veut dire paix. Mais elle veut dire aussi la soumission, et en l'occurrence la soumission à Dieu. Souvent, vous savez, dans nos milieux chrétiens, il m'arrive d'entendre en tout cas des caricatures sur ce mot soumission, en disant, bon, l'islam c'est la religion de soumission, mais Jésus ne nous demande pas moins, il nous demande une soumission totale, à lui également étant notre Seigneur. Nous sommes invités à nous soumettre également à lui. Le Dieu auquel il faut se soumettre dans l'islam est un Dieu donc monothéiste, qui n'est pas engendré, et je reviendrai tout à l'heure, et c'est un monothéiste donc strict qui écarte toute possibilité de la Trinité, de la foi chrétienne. Et cette soumission prend corps concrètement par deux séries de cinq, d'abord les cinq piliers, les cinq fondements de l'islam, et puis les cinq piliers de l'islam. Et avant d'aborder ces deux séries de cinq, j'aimerais d'abord dire un mot sur l'histoire qui permettra de comprendre le début de l'islam. Le cadre donc historique. Tout a commencé donc en Arabie. Vous avez la carte, je ne sais pas si vous voyez bien, mais elle est là. Vous avez donc, tout commence en Arabie, un territoire qui fait à peu près quatre fois la France, et un territoire qui est aussi entouré de par trois mers. Donc il y a une seule frontière terrestre qui est donc avec l'Asie, avec l'Asie mineure. Le climat, la plupart de ce territoire, c'est un territoire désertique, c'est le plus grand, la plus grande surface désertique au monde. Et parfois, les températures peuvent grimper jusqu'à 60 degrés. Ces régions désertiques vont favoriser une peuplade particulière. Et à côté de ces régions désertiques, vous avez des villes côtières, qu'on appelle le Yémen, ou encore la ville Yathrib, ou la Mecque également. Cette géographie va favoriser deux sortes de populations. Dans le désert, on a affaire aux habitants du désert, c'est des nomades, qu'on appelle en arabe les Badawi, et de ce nom vient le nom d'arabe par la suite. Ce nom-là est donné pour les Sémites autres que juifs qui descendent de la Mésopotamie, donc qui descendent du nord. Par la suite, bien sûr, lorsque il y aura les conquêtes musulmanes, on finira par appeler arabes, y compris les Égyptiens, y compris l'Afrique du Nord, etc. Tous les musulmans, on finira par les appeler arabes. Mais initialement, c'était simplement les habitants de l'Arabie. Et dans les villes côtières, vous avez aussi des gens qui occupent et qui développent ces régions, des régions très très riches. Tout le peuple de l'Arabie à l'époque, donc qui est sémite, autre que juif, du nom donc de Badawi, à chaque fois que je dis arabe, donc vous comprenez que je parle de cette région-là, je ne parle pas de tous les musulmans du monde. Donc les arabes de l'Arabie sont, aussi bien d'ailleurs les nomades que les citadins, sont organisés en forme de tribunes, et chaque tribu, donc c'est formé de tribus, mais chaque tribu se réclame d'un ascendant à la manière du peuple d'Israël qui se réclame des 12 patriarches. Et il y a donc le chef de tribu et il y a un conseil qui siège avec lui et la tribu est dirigée de cette manière. Et c'est la loi de Talion qui est en vigueur. Donc quand il y a un problème, par exemple s'il y a un meurtre, une tribu qui tue un membre d'une autre tribu, il faut que la tribu donc du meurtrier soit elle-même exécute le châtiment, tue le meurtrier, soit elle livre le meurtrier pour qu'il soit exécuté par l'autre tribu. C'est la loi de Talion qu'on trouve donc exercée. C'est important parce qu'on retrouvera cela également par la suite dans le Coran. L'arabe a été développé par la suite, la langue donc qui est devenue l'arabe a été développée par la poésie. Il y avait l'exercice de poésie qui était vraiment très très développé à cette époque-là. À titre indicatif, vous savez que aujourd'hui, si nos politiques essaient de se répondre ou d'échanger entre eux par des discours politiques, à l'époque, les poètes se répondaient entre eux. Vous avez un poète qui se lève, qui travaille, hein, mais c'est des professionnels, qui travaillent pour une tribu, se lève pour honorer, bien sûr, son chir, le chef de sa tribu, et au passage, bien entendu, casser de sucre sur le chef de l'autre tribu. Et vice-versa. Et c'est comme ça donc que l'arabe s'est développé et ce caractère poétique se retrouvera également dans le Coran. L'arabe, donc, l'Arabie, ce peuple, a été entouré, donc, comme vous l'avez remarqué, par deux empires qui sont très importants. L'empire d'abord sassanide, le Perse, l'Iran, qui est une très très grande civilisation, et de l'autre côté, l'empire byzantin, qui est au nord, c'est à peu près la Turquie d'aujourd'hui, et là encore très très influencé par le christianisme. Un mot sur la religion qui dominait à cette époque-là. Il y avait plusieurs influences. D'abord, les Arabes de la Mecque, de l'Arabie, étaient des polythéistes. Plusieurs croyaient en plusieurs divinités, et croyaient aussi aux esprits, et surtout, il faut s'efforcer à plaire à ces esprits pour ne pas les contrarier. On considère, aujourd'hui, les historiens parlent de 360 idoles à la Mecque qui existaient au temps, donc là on est au 7e siècle, hein, au 7e siècle à la Mecque, parce qu'à la Mecque il y avait déjà ce temple qui existait avant l'arrivée de l'islam. C'était un sanctuaire où, une fois dans l'année, tous les Arabes de l'Arabie venaient à la Mecque pour faire le pèlerinage. Et il y avait déjà 360 idoles, et les 360, ça correspond à 360 jours du calendrier de l'année lunaire chez les Arabes à l'époque. Donc, une idole pour chaque journée. Au-dessus de ces idoles, de ces 360 idoles, il y avait les trois filles qu'on a appelées les trois filles de Allah, dont il sera question dans le Coran. Ces trois filles de Allah sont Allat, Al-Uzza, Al-Munna. Pas obligé de les retenir, mais juste ça permettra de comprendre après la question du monothéisme strict ou pur. Donc il y a les idoles, il y a les filles de Allah, et au-dessus il y a Allah. Voilà un peu la conception à l'époque pour les citations du nom de ces idoles. Elles sont dans le Coran 53, à partir du verset 19, si vous êtes intéressé. Il y a une autre idole qui est identifiée, mais elle n'est pas citée dans le Coran, donc je passe de côté. Le polythéisme d'abord. Ensuite, il y a le judaïsme. Après la destruction du temple de Jérusalem en 70, et puis la persécution en 135, je crois, la persécution romaine contre les juifs, tous les juifs sont descendus en Arabie. En tout cas, beaucoup de juifs sont descendus en Arabie. Et ils ont trouvé un accueil très, très favorable. Ils étaient très, très appréciés pour plusieurs choses, mais notamment pour deux choses, notamment pour les écrits sacrés qu'ils ont apportés. Ils étaient appréciés pour toute la littérature rabbinique dans la loi de Moïse, etc., qu'ils ont apportée, et aussi pour leur sens de commerce. Et il y a des endroits en Arabie, au 7e siècle, où on trouve des traces. C'est toute la tribu juive qui habitait entre elles comme s'ils étaient en Israël auparavant. Donc, ils habitaient entre eux sans aucune difficulté, sans aucun problème. Enfin, l'influence chrétienne, le christianisme. Il y avait le christianisme. Je vous ai parlé des deux empires qui entouraient un peu l'Arabie. Vous savez que l'empire byzantin, qui est au nord-ouest, donc la Turquie, avait pour centre Alexandrie, le centre culturel très, très influent Alexandrie, donc qui a eu un rayonnement extraordinaire sur toute cette région-là. Et puis l'empire sassanide, il n'est pas proprement chrétien complètement, mais il a des groupes chrétiens qui étaient très, très, très influents. Donc, les échanges, etc., entre les Arabes et aussi bien les deux empires ont permis quand même la venue, l'importation du christianisme en Arabie. On a trouvé plusieurs traces. Peut-être vous parlez de trois traces. Déjà, au nord, il y a toute à la frontière donc, de l'Empire byzantin, il y a des tribus entièrement qui se sont converties au christianisme. Donc là, on est au 7e siècle, ils sont arabes, hein, qui sont chrétiens. Et puis par la suite, dans le nord-est, donc vers l'empire byzantin, hein, donc sassanide, là vers l'Iran, l'Irak, etc. Et là, il y a un souverain qui s'est converti arabe, qui s'est converti au christianisme, et du coup, c'est toute la région qui s'est tournée vers le christianisme, qui a adopté le christianisme comme religion. Et enfin, dans le sud, et en particulier le sud au Yémen, le Yémen d'aujourd'hui, qui était très en contact avec la ville de... avec le royaume Aksum de l'époque, l'Éthiopie d'aujourd'hui. Et là, il y avait un centre missionnaire très, très actif. Et donc, vous avez des missionnaires qui venaient jusqu'à l'Arabie et qui faisaient un travail d'évangélisation, un travail missionnaire. Et c'est comme ça qu'ils ont fondé pas mal d'églises dans toute cette région sud-ouest de l'Arabie. Deux choses sur le christianisme qui est en Arabie à cette période-là. Ce christianisme est influencé par deux sectes. La première secte, c'est la secte des Nestoriens, le Nestorianisme. D'abord, pour fixer les choses, dans la Bible, dans le Nouveau Testament, la Bible présente Jésus comme étant pleinement Dieu, pleinement homme. Donc il y a deux natures, nature humaine, nature divine, et une personne, une seule personne, Jésus. Il est un, il n'y a pas plusieurs. Donc ça, c'est ce que le Nouveau Testament dit. Le Nestorianisme dit qu'il y a deux personnes, et deux natures, donc deux natures et deux personnes. Il ne disait pas qu'une seule personne. Et puis il y a une autre secte qui vient pour contrer un peu cet enseignement, ce qu'on appelle les monophysistes. Ils disent il n'y a qu'une seule personne et une seule nature. Je sais que c'est facile, mais si jamais vous n'avez pas bien saisi, n'hésitez pas à aller voir les pasteurs, ils vont vous expliquer ça très très bien après. Donc ce sera l'occasion de discuter avec eux sur ces questions. Et ils seront très heureux de vous aider à comprendre davantage. Donc il y a deux sectes qui ont marqué ces deux, le christianisme de l'Arabie. Pourquoi je les mentionne ? Parce qu'elles vont se retrouver, ces enseignements vont se retrouver dans l'islam, vont se retrouver dans le Coran. Enfin, une dernière secte, c'est une secte qu'on appelle Hanifa. Ouais. Stéphanie, tu veux juste en dire ? Merci. Donc, qui est Hanifa, c'est bon. Voilà. De cette secte, Mohammed va reprendre deux enseignements fondamentaux de cette secte. D'abord, c'est le monothéisme pur, strict. C'est eux qui annoncent le monothéisme pur, mais ils le font à la ville de Hira, donc en dehors de la Mecque. Ça posait pas problème pour le commerce des idoles. Et puis, il y avait un autre enseignement, ils sont des Abrahamites. Des Abrahamites, c'est-à-dire, ils disent que les Arabes de l'Arabie descendent d'Abraham par Ismaël. C'est eux les premiers à dire cela. Vous savez, bon, quand on regarde dans la Bible, Abraham, c'est vrai, il a sa femme, Dagar, sa servante Dagar, il a Ismaël, mais Agar, elle vient d'Égypte. Et l'Égypte, c'était des Berbères, c'était pas des Arabes. Je vous ai dit que la population d'Arabie, ce sont les Sémites qui descendent de la Mésopotamie. Et ce n'est pas les Égyptiens, les Berbères qui montent de l'Égypte, hein, des pharaons, etc. Donc, c'est le premier endroit où on trouve cette association entre les Ismaélites, donc entre les Arabes et Abraham avec Ismaël. Bon, de ce que j'ai lu, hein, mais peut-être il y a d'autres démonstrations, mais jusqu'ici, je n'ai jamais vu des démonstrations satisfaisantes à cet égard. Je dis cela aussi parce que ça va être repris également dans le Coran. Donc c'est dans ce contexte religieux que Mohammed va voir le jour. Mohammed, donc, c'est le fondateur de la religion musulmane. Le Coran, vous savez, pour la bibliographie de Mohammed, là on peut passer à Stéphanie, hein. Donc pour la bibliographie de Mohammed, vous savez, il a une bibliographie incertaine. Il faut savoir que le Coran ne relate pas la vie de Mohammed comme par exemple l'Évangile ne relate la vie de Jésus. Il y a des références bien entendu à Mohammed, mais même si on rassemble toutes les références, on n'arriverait pas à retracer, même d'une manière globale, hein, la vie de Mohammed. Il faut attendre donc la biographie qui sera reconnue, la biographie traditionnelle qui sera reconnue comme canonique, ce qu'on appelle Sira en arabe, mais la première sera écrite 767, sachant que Mohammed est mort en 632, mais ce n'est pas celle-là qui sera canonique, qui sera reconnue dans la théologie musulmane, c'est celle qui sera écrite en 834 précisément. Et elle est écrite donc 834, deux siècles. Mohammed est mort, 632, donc deux siècles après la mort de Mohammed. Si l'évangile est écrit quelques années après la montée de notre Seigneur au ciel, il faut savoir que la biographie officielle, canonique de Mohammed est écrite deux siècles après. D'abord, Mohammed comme homme, donc à sa naissance, il est né autour de 570 de notre ère, donc fin de 6e siècle. Il a vécu un peu pauvre, etc. Son père est décédé à sa naissance. Sa mère va le décéder aussi à l'âge de 6 ans. Il sera confié à son oncle et il a eu une enfance un peu, pauvre, etc. Mais très rapidement, son oncle c'est Ali Abu Talib, mais vous verrez après dans le schéma qui va suivre. Sauf si Stéphanie vous montrer le schéma. Voilà. Donc c'est lui, son oncle, qui est en même temps le père de Ali, qui est le quatrième calife reconnu, et qui va se marier avec Fatima, la fille de Mohammed. Voilà. Vous voyez un peu. Il va lui apprendre le commerce, et à l'âge de 20 ans, Mohammed va devenir déjà un commerçant très très exercé, très très apprécié. Il va se faire remarquer par une femme, presque la plus grande femme, enfin la femme la plus fortunée de la Mecque, en tout cas qui fait partie des plus fortunées de la Mecque. Et cette femme, c'est Khadija. Donc il va travailler pour elle pendant 5 ans, donc il a 25 ans, il va travailler jusqu'à 25 ans pour elle, et il va se marier avec elle. Donc c'est pour elle, pour lui, c'est son premier mariage, mais pour elle, c'est son troisième mariage. Là, les sources divergent. Pour les sources musulmanes, elles disent elle était veuve à deux reprises, donc Khadija s'est mariée avec lui, donc, et elle avait 40 ans, donc il y avait 25 ans d'écart. Hein. 15 ans d'écart, pardon. Et par contre, pour les sources historiennes, etc., certaines sources, j'ai lu des articles des historiens qui disaient, en fait, Mohammed était son troisième mari, tout en gardant les deux autres maris. Ce qu'il faut savoir, ça c'est une certitude, je ne sais pas au sujet de Mohammed, mais au sujet de la Mecque, à l'époque, les femmes riches pouvaient se marier avec quatre hommes en même temps, pourvu qu'elles aient les moyens nécessaires de les entretenir, entre guillemets. Et cette règle, on va la retrouver dans le Coran, mais inversée. Musulmans pourront se marier avec quatre femmes, mais avec les mêmes exigences. Il faut aussi qu'ils soient justes à leur égard, etc. Donc, soit, en tout cas, Mohammed va rester avec cette femme jusqu'au décès de cette femme, en 619. Mais avant le décès de cette femme, en tout cas, aux côtés de cette femme, Mohammed va pas se soucier des préoccupations matérielles. Il est vraiment bien pris en charge. Il continue toujours à travailler, tout en étant l'époux de sa patronne. Il fait des voyages, mais de temps en temps, entre les deux voyages, il fait des retraites spirituelles, notamment à la ville de Hira, qui se situe à peu près entre 15 à 20 km de la ville de la Mecque. Et lorsqu'il fait ses voyages, il rencontre bien sûr des religieux, des juifs, des chrétiens, des prêtres. Il échange avec eux et il fréquente la secte aussi de Hanifa. Apparemment, il a été introduit même par l'oncle de Khadija, qui est Nafal ibn Warqa. Cet oncle de Khadija, en fait, est aussi nestorien, est chrétien nestorien. Et en même temps, il fréquente cette secte de Hanifa, qui se fait des retraites spirituelles dans la ville, enfin, à quelques kilomètres de la Mecque, qui était la capitale. Le mois de Ramadan, vous savez que le mois de Ramadan n'est pas venu avec l'islam, il existait déjà, comme nous par exemple, le mois de janvier, février, etc. Donc c'est un mois lunaire de l'Arabie avant l'arrivée de l'islam. Lors du mois de Ramadan, la 27e nuit de ce mois, Mohammed dit recevoir une révélation de l'ange Gabriel qui lui dit « lis au nom de ton Seigneur », etc. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui dans l'islam, pendant tout le Ramadan, donc il jeûne pendant le Ramadan, mais en plus, il lise tous les soirs tout le Coran pour qu'au mois de Ramadan, pendant tout le mois de Ramadan, communautairement, ils aient lu tout le Coran. Donc si on suit, quelqu'un qui suit tous les soirs, et ils vont lire tout le Coran pendant le mois de Ramadan. C'est vrai. Là, on peut s'inspirer par contre pour l'évangile. Période de Pâques, pourquoi pas. Bref. Vous savez, il y a des bonnes choses quand même qu'on peut tirer. Donc, et là, Mohammed, donc, il rentre chez lui complètement, il est troublé, il dit à sa femme, je viens de vivre une expérience spirituelle qui est complètement extraordinaire, et il tremble, il pleure, il a peur, et Khadija va l'encourager. Vous savez, Jésus, il dit, personne n'est prophète chez soi, mais là, c'est le contraire, là, elle l'encourage, et surtout, il y avait ce Ibn Waraqa, Warqa ibn Nafal, lui, qui est chrétien historien, il lui dit, mais écoute, ce que tu me décris là ressemble presque totalement à tout ce qu'ont vécu les prophètes de l'Ancien Testament. Il lui cite Jérémie, Ézéchiel, etc. Il lui dit donc, si c'est Dieu qui te parle, ça s'inscrit dans la continuité de la révélation. Pendant 3 ans, Mohammed n'a pas reçu de révélation particulière et il commence à douter, mais il a été encouragé par sa femme, par Warakas, le cousin de sa femme, Khadija. Et à partir de 613, donc 600, c'est la première révélation, à partir de 613, il va reprendre, donc les révélations vont reprendre jusqu'à 632. Mohammed continuera à dire à ses amis et à son entourage qu'il recevait des révélations de l'ange Gabriel, qu'il apprenait par cœur, qu'il leur donnait, et eux, à leur tour, ils les apprenaient par cœur. Il y a 3 périodes très rapides de ministère prophétique de Mohammed. La première, c'est la période des débuts, jusqu'à donc de 610 jusqu'à 622. En 619, il y a la mort de Khadija, mais il y a aussi la mort de son oncle, le père de Ali. Et son oncle était le responsable de toute la tribu. Il lui assure donc une protection tribale. Or, à la mort de son oncle, il y a le successeur, qui est Abu Lahab. Son successeur, depuis un moment déjà, il disait qu'il faut absolument enlever la protection tribale à Mohammed. parce qu'il leur fait perdre énormément d'argent au niveau du commerce des idoles. Et c'est sa tribu qui était chargée de commerce des idoles. Et donc, dès qu'il est arrivé au pouvoir, la première chose qu'il fait, c'est de retirer la protection tribale à Mohammed. Et donc, n'importe qui peut tuer Mohammed, surtout tous les grands commerçants de la Mecque peuvent tuer Mohammed et ne pas être inquiétés. Pourquoi ? Parce que jusqu'ici, l'unicité divine, que Dieu est un, a été annoncée, prêchée dans la ville de Hira. On est presque à la porte du désert. Or, Mohammed, il a ramené ce message au cœur de la Mecque, au cœur du commerce des idoles, et là, ça a suscité de la persécution. D'ailleurs, ses adeptes, dès 615, ont quitté la Mecque. Ils ont trouvé refuge notamment auprès d'un souverain chrétien. Mais lui, à partir de 619, suite à ces deux décès, il comprend que ses jours sont comptés s'il restait vraiment à la Mecque. Il organise avec celui qui sera son premier calife, Abu Bakr, donc il organise le voyage à Médine. Donc là, il l'envoie à Médine, qui se situe aussi à peu près une vingtaine de kilomètres de la Mecque. Là, il prépare le terrain, il y a beaucoup qui vont se convertir, et en 622, Mohammed part de la Mecque à Médine. C'est la première période, c'est ce qu'on appelle Hijr, et c'est à partir de là qu'ils ont commencé le calendrier chrétien, musulman. Donc 622 égale l'an 1 chez les musulmans. Et après, il reste 9 ans, c'est-à-dire ils reviennent en 629-30, ils reviennent à la Mecque avec une armée assez forte pour faire face à l'armée de la Mecque. Et pourtant, c'était une armée très très puissante, la Mecque, et c'était des riches, etc. Il est vrai que certains se sont convertis, mais très franchement, ça n'explique pas tout. Il y a aussi la violence, et c'est comme ça que Mohammed a réussi à conquérir la Mecque à la fin de sa vie. Il va vivre donc 630, là c'est 130, donc après entame avec 630 la dernière phase, 630 à 32, où notamment il va islamiser le pèlerinage, où il va dire maintenant on enlève les idoles, mais le pèlerinage ça sera la commémoration du sacrifice que Abraham a voulu faire en voulant sacrifier Isaac, Ismaël et non pas Isaac. Donc là ce sont les différences avec les données bibliques. Et en même temps, donc il n'y aura pas de vente des idoles, mais par contre, il faut égorger un mouton. Et ça ne concernera pas simplement les Arabes, mais les musulmans où ils se trouvent. Finalement, dans l'affaire, entre parenthèses, sur le plan purement commercial, il a fait une affaire extraordinaire. Vous savez qu'aujourd'hui, les musulmans de France, par exemple, lorsqu'ils vont en Arabie Saoudite, ils achètent un mouton, ils l'égorgent, mais ils ne leur est pas permis de le manger. Donc il faut qu'ils achètent autre chose pour manger. Ça, c'est un sacrifice. Qu'est-ce que font les autorités de l'Arabie Saoudite ? C'est simple, ils regroupent tous ces moutons-là et les envoient et les vendent à l'étranger, notamment en France. Et donc le musulman français, il revient ici en France pour acheter sa viande. Donc il la paye deux fois. Il paye deux fois son mouton. Donc sur le plan commercial, je ne sais pas si ça a été calculé ou pas, mais voilà, mais ça rapporte quand même. Voilà, j'aimerais commencer les dogmes de l'islam, même s'il y a des choses à dire. Mais peut-être vous dire, vous citez juste un chrétien. Un orientaliste, un grand orientaliste chrétien qui écrit sur Mohammed. J'aimerais vous faire la citation, c'est Louis Massignon. Si vous avez vraiment des ouvrages de lui, allez-y, ne vous inquiétez pas, elle est très très bon. Voici ce qu'il écrit sur Mohammed. Hein. Il a passé sa vie à étudier Mohammed, enfin les débuts de l'islam, entre autres Mohammed. Il dit, cet homme, comme tous les vrais chefs, qui a été dur avec lui-même, on peut retenir de lui, de sa vie, atteste la volonté éprouvée, maîtrise de soi, modération, prudence, mansuétude et finesse, patience et prévoyance, toutes les qualités manouvrières du chef de guerre et du chef d'État, discipliné par une foi profonde. Voilà ce qu'écrit Massignon au sujet de Mohammed après des années d'études à son sujet. Que dit maintenant la foi musulmane ? Que croient les musulmans ? Dans la vie de Mohammed, il a apporté des textes, le Coran, qui sont résumés. D'abord, j'aimerais dire un mot sur les deux bases scripturaires. Il y a deux sources scripturaires dans le Coran. Les sources scripturaires, c'est-à-dire les bases de la foi, qui sont les textes sur lesquels leur foi est fondée. D'abord, c'est le Coran, ensuite les hadiths. Ce qu'il faut dire, c'est qu'il y a une différence de Coran et de hadith entre les deux grandes familles de l'islam, sunnite et chiite, qui, ces deux grandes familles, vont voir le jour dès le lendemain de la mort de Mohammed. Il y a la division. En gros, les chiites, ceux qui vont suivre Ali, pour qui Mohammed a désigné Ali comme son successeur, directement. Et il n'y a pas donc les trois autres califes. Et puis vous avez les sunnites, c'est ceux qui ont dit non, Mohammed n'a pas désigné son successeur, mais au contraire, c'est le conseil. Ils se sont réunis à la manière tribale de l'ancienne, comme ils avaient l'habitude de le faire. Et puis ils ont désigné un successeur qui était Abu Bakr d'abord, après Othman, Omar après Othman. Donc, pour la composition du Coran, la version officielle, vous savez qu'elle a été faite non pas du temps de Mohammed, mais c'est au temps du troisième calife. En gros, le troisième calife, Othman, c'est pour ça qu'on l'appelle la version othmanienne, ou bien la Vulgate, la version officielle, c'est celle qu'on trouve un peu partout. À un moment donné, ils ont rassemblé toutes les différentes versions existantes dans la majorité de la communauté musulmane qui était composée de musulmans donc sunnites, ce qu'on appellera par la suite sunnites, et ils ont pris une version et ils ont brûlé et déchiré toutes les autres versions en donnant une recommandation formelle. Si jamais on trouve une autre version du Coran en possession de quelqu'un, il risque la mort. Donc, et c'est comme ça qu'on a réussi à se débarrasser un peu d'autres versions. Ceci dit, parmi les chiites, donc les partisans de Ali, ils avaient un Coran beaucoup plus volumineux. Il y a par exemple un hadith qui est important dans la tradition musulmane. Un hadith, il a la même valeur que la parole, que le Coran. Donc, au niveau scriptural, c'est vraiment la même autorité. Et ce hadith, il dit que le Coran officiel ou originel est trois fois plus volumineux que le Coran actuel, que le Coran, la Vulgate officielle. Dès le 4e siècle, l'équivalent de notre 10e siècle, il y a par exemple le livre qui a été écrit par Sayyar, qui, dont le titre est le livre de la révélation et de la falsification. Il traitait justement de la falsification du Coran, et non pas de la Bible, hein, il traite de la falsification du Coran. Et là, on trouve par exemple certains sourates beaucoup plus longues que celles que nous avons aujourd'hui dans la version officielle du Coran. Si vous êtes intéressé sur ce sujet, il y a quelques travaux qui sont vraiment remarquables, les travaux de Amir Moazi sur le Coran silencieux et le Coran parlant, ou encore François Desroches sur les origines du Coran ou le Coran des origines. Si vous allez sur le site, il enseigne, où est-ce qu'il enseigne? Vous vous rappelez? Non? Il enseigne au Collège de France. Si vous allez sur le site du Collège de France, vous pouvez trouver ses conférences sur les débuts du Coran. Il a fait vraiment beaucoup, beaucoup de travaux. Mais celui qui a vraiment bien, bien travaillé le sujet, c'est Alfred Desprémard. Lui a consacré toute sa carrière universitaire. Il était prêtre. Il a enseigné, hein, il a dirigé un centre de recherche. Il a consacré sa vie au début de l'islam. Et là, si vous voulez, il est vraiment très loin. Donc, le Coran, aujourd'hui, la version que nous avons, les musulmans souvent nous disent, hein, même dans le débat de mardi ou mercredi dernier, de la semaine dernière, même dans le débat, l'imam de la mosquée de Paris me disait, enfin, il a glissé une phrase très rapide. Je ne l'ai pas retenu, hein, mais il a glissé quand même une phrase que le Coran n'a pas été falsifié, n'a pas été touché. Je ne voulais rien dire, mais il faut savoir que ça, c'est ce que les musulmans disent, mais l'histoire ne dit pas tout à fait ça. Y compris l'histoire musulmane, hein, je ne parle pas de l'histoire du regard des chrétiens ou autre, mais l'histoire musulmane déjà. Donc vous avez le Coran. À l'intérieur, il y a des sourates, il y a 114 sourates dans le Coran. C'est classé de la plus grande à la plus courte. Des sourates, la plus longue, à la plus courte. Mis à part la première, c'est la prière du prophète lui-même. C'est pour ça qu'on la place au début, ce qu'on appelle le prologue. Initialement, elle ne faisait pas partie du Coran, mais on l'a rajoutée, et c'est la raison pour laquelle aussi tous les musulmans citent cette prière. Et après, à l'intérieur des sourates, de ces chapitres, donc, il y a les versets, qu'on appelle en arabe l'ayah. Lorsqu'on est venu voir Mohammed en lui disant « Mais quel est ton miracle ? Jésus a ressuscité les morts, Moïse a ouvert la mer des gens, la mer rouge, etc. » L'Exode, hein, lors de l'Exode. « Et toi, quel est ton miracle ?» Et Mohammed leur a dit « Mon miracle, c'est le verset. » Il faut savoir qu'en arabe, c'est le même terme. Hein, « Ayatihiya ayah » Donc, voilà, « ayah ». Donc, mon verset est le miracle. Et c'est la raison pour laquelle, pour les musulmans, on ne peut pas traduire le Coran. Le Coran, parole de Dieu, c'est juste en arabe. À partir du moment où il est traduit en français, en anglais ou dans d'autres langues, c'est le sens du verset. Mais ce n'est plus le verset. Parce que c'est le verset, c'est la lettre elle-même qui est miracle. Vous savez que pour les chrétiens, la Bible traduite en français, en anglais ou dans n'importe quelle langue reste parole de Dieu. Les apôtres ont cité la parole de Dieu de l'Ancien Testament, non pas selon la non pas selon le texte massorétique, mais selon la Septante, selon la première traduction grecque qui a été réalisée 2 siècles avant Jésus-Christ. Donc, ce qui montre que le Saint-Esprit donne un peu sa bénédiction et son sceau sur le fait de dire que la traduction reste parole de Dieu. C'est une parole qui s'incarne, y compris dans les cultures. Dans l'islam, il faut parler arabe. En tout cas, il faut, si vous voulez lire, avoir accès à la parole de Dieu originale, la vraie, il faut apprendre l'arabe. Donc, j'avais parlé des hadiths qui sont différents. Je pense qu'il faut juste retenir que quand un musulman dit le hadith dit ceci, pour lui, c'est comme il vous dit parole de Dieu dit ceci. Hein. Donc, c'est un hadith. Par contre, les hadiths, ils peuvent le traduire en français et tout, il n'y a pas de souci. Mais ça a le poids quand même d'une parole scripturaire. Que dit donc la foi musulmane, donc les fondements? D'abord, pour les fondements, on trouve les fondements de la foi musulmane résumés dans 2 sourates, la sourate 2, le verset 285, ou encore sourate 4, verset 136. Dans ces 2 sourates, il y a les 5 fondements qui sont donnés. Il y a Dieu, donc il y a Dieu, il y a Dieu, les anges, les prophètes, les livres prophétiques et le jugement dernier. Je ne vais pas rentrer dans le détail de ces articles pour la simple raison, c'est que l'année dernière, j'avais fait aussi une série d'instituts bibliques où j'avais consacré, par exemple, tout un institut biblique sur la notion de Dieu dans le Coran et la Bible. Quelle différence avons-nous le même Dieu? Et ça y est toujours sur notre site de l'Église. Vous pouvez le consulter éventuellement. Préciser juste que le Dieu dans l'islam, Dieu n'est pas trinitaire, est un Dieu monothéiste, est un Dieu unitaire et pas trinitaire. Mais juste pour préciser, vous savez, l'un des textes qui est avancé par les musulmans pour justifier que Dieu n'a pas d'enfant, c'est le Coran 112, dit dit que Dieu est un, il n'a pas engendré, il n'a pas été engendré, etc. Ce texte-là, initialement, a été donné pour justement contrer les filles de Allah, ces Mekwas, qui disait Mohammed, mais non, Dieu a des filles. Et ces filles, les 3 filles dont je vous ai parlé, les déesses. Et donc, initialement, ça a été utilisé contre ces déesses-là. La preuve, c'est que Mohammed dit dans ce texte du Coran 112, il dit qu'il est Dieu, Dieu est un. Et lorsqu'il dit Dieu est un, en arabe, on dit Allahu Ahad. Quand il dit Ahad, il reprend exactement la confession juive, Shema Israël Adonai Eloheinu Adonai Echad. Donc Adonai Echad, en arabe et en hébreu, c'est exactement pareil, c'est la même racine, Dieu est un, Allahu Ahad, Adonai Echad. Et pour Jésus, il reprend cette expression Dieu est un de Deutéronome 6, verset 4, lorsqu'il dira dans l'évangile de Marc, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de ton cœur. Avant de dire cela, il dit le Seigneur est un. Donc, dans la conception de Jésus, dire le Seigneur est un de Deutéronome 6, ce n'est pas en contradiction avec le Dieu trinitaire. Hein? Ce n'est pas en contradiction avec le Dieu 3 personnes, Père, Fils et Saint-Esprit. Et l'islam, au début, Mohammed, lorsqu'il reprend, il s'inscrit dans la même continuité. À vrai dire, c'est à la fin de sa vie. Lorsque les chrétiens et les juifs, à vrai dire les judéo-chrétiens, n'accordent pas une autorité scripturaire au texte de Mohammed, c'est là que Mohammed va développer donc la théologie, il va inclure aussi les chrétiens, les juifs, il va les traiter de polythéistes, des gens qui font de l'associationnisme, donc ils associent une divinité à Dieu. Et là, c'est dans le Coran 9, verset 30, c'est là qu'il va accuser les juifs d'appeler Esdras fils de Dieu, fils d'Allah, et les chrétiens Jésus, fils d'Allah. Après, il dit que Dieu les anéantisse, etc. Donc, c'est un texte relativement violent, hein, le Coran 9. Mais à partir de là, donc à la fin de la vie de Mohammed, on est en 630-31, c'est à partir de là que les juifs et les chrétiens sont mis sur le même banc que les polythéistes mécois. Mais initialement, tel n'a pas été le cas. Voilà, je pense que le savoir, ça permet de bien aider aussi nos amis musulmans dans leur réflexion. Il y a un texte dans le Coran 59 qui reprend, par exemple, tous les attributs avec lesquels Dieu s'est présenté dans la Bible. Par exemple, hein, il dit, c'est Dieu, je vous lis, hein, c'est lui le tout miséricordieux, le très miséricordieux, c'est lui Allah, nulle divinité que lui, le souverain, le pur, l'apaisant, le rassurant, le prédominant, le tout puissant, le très fort, le très grand, etc. Donc, l'omniprésence, l'omniscience, etc. Tout cela, nous les retrouvons dans la Bible. Donc, il y a Ceci dit, des attributs, il y a des lieux de rencontre. Mais après, une fois qu'on est parti sur ce terrain, une fois qu'on a parlé des lieux de rencontre, après, je pense qu'il faut conduire nos amis musulmans à comprendre la spécificité de Dieu révélé par Jésus-Christ. Et là, à vrai dire, le Dieu révélé par Jésus-Christ est unique, aussi bien vis-à-vis des musulmans que vis-à-vis d'ailleurs des juifs. Vous savez, l'une des raisons, la première fois où on a voulu lapider Jésus dans l'évangile de Jean, c'est en Jean 5, c'est lorsque Jésus a appelé Dieu son père, il dit mon père. C'est à ce moment-là qu'on a voulu le lapider. Après, bien sûr, ça revient au chapitre 8 aussi, là aussi où on a voulu le lapider aussi parce que il a présenté Dieu aussi comme son père. Donc, pour le Dieu trinitaire, pour le Dieu révélé par Jésus-Christ, il faut savoir que c'est une révélation spéciale, unique à Jésus-Christ. Voilà, il faut aider autant qu'on peut nos amis musulmans dans leur réflexion. Et pour cela, moi, je vous recommande vivement le travail de Shaukat Mukari, l'ouvrage que j'ai mentionné, et encore celui de Christine Schayemacher. Vous pouvez trouver vraiment des éléments qui peuvent vous aider dans la discussion sur ce point, des points, mais aussi ce qui fait la spécificité de la foi chrétienne. Donc, après, quant à la question des anges, vous savez, il y a Gabriel, dont je viens de parler, il parle de l'ange Michael, Israfel, etc. Il y a les livres prophétiques, les musulmans doivent croire dans tous les livres révélés par les prophètes, et dans la conception musulmane, c'est quoi la parole de Dieu? La parole de Dieu a préexisté auprès de Dieu depuis l'éternité. Donc, c'est une parole incréée. Donc, depuis l'éternité, que Dieu a révélé au fur et à mesure dans l'histoire. D'abord, la Torah à Moïse, la première partie. La deuxième partie, ce sont les psaumes à David, Zabor pour David, et l'évangile pour Jésus et le Coran pour Mohammed. Mais c'est une parole qui a préexisté et que Dieu a révélée. Donc, pour le Coran, il s'inscrit dans la continuité de la Torah, des psaumes et de l'évangile. Et de ce fait, il faut croire à tous les prophètes, y compris donc à Jésus, il faut croire à tous les prophètes de l'Ancien Testament, sinon ce serait trahir le dogme musulman. Et enfin, le dernier, c'est le jugement dernier, il faut croire dans le jugement dernier, et là encore, l'année dernière, j'ai abordé tout un institut public que j'ai consacré sur la fin, pour le jugement dernier, je vous recommande de le regarder. Si vous avez des questions, davantage, je suis dans l'église, donc n'hésitez pas à m'écrire ou à venir me voir. Ce sera avec joie que j'apporterai des éléments supplémentaires si nécessaire. Les autres cinq piliers, c'est la confession. La confession de foi, il faut la dire en arabe. Et là, même si la plus grande communauté musulmane n'est pas arabe, mais il faut la dire quand même en arabe, au moins pour la première fois. Et ensuite, c'est la prière. Là aussi, il faut la faire en arabe. Il faut apprendre certains textes. Et c'est possible, hein, il y a certains qui ne maîtrisent absolument pas l'arabe, mais qui arrivent à réciter l'ensemble des choses. Après, bien sûr, le mois de Ramadan, le jeûne, pour se rappeler du mois où la révélation coranique a commencé à descendre, parce que dans l'islam, on parle de descente de la parole de Dieu. Et ensuite, l'aumône, donc donner, aider ceux qui sont dans le besoin, entre autres. Et puis le pèlerinage, aller à la Mecque. Et si vous n'avez pas les moyens d'aller à la Mecque, eh bien, vous participez à un pèlerinage de quelqu'un d'autre. Et comme cela, vous allez gagner aussi des points qui vous permettront, en vue du jugement dernier. Donc, si on a les plus de bons points ou les choses positives, l'emporteront sur les négatives. À partir de ce moment-là, c'est le paradis. Mais dans le cas contraire, c'est l'enfer. Je schématise, mais je vous renvoie à cet institut biblique où j'ai pris le temps d'exposer cela. J'aimerais dire un mot sur la troisième partie, sur les écoles et les Corans dans l'islam. Ça va, vous tenez encore? Parfait. D'abord, je vais me baser sur les sunnites pour la simple raison, c'est que nous avons plus de sunnites, et je ne parle pas des chiites, hein. Les chiites, c'est vraiment une autre histoire. Là, je me base sur les sunnites, c'est eux qu'on a le plus ici en Europe, et même en Afrique du Nord, etc. Et même sur la scène, au niveau des musulmans, il y a à peu près entre 75 et 80% des musulmans de la communauté musulmane. Donc, ces sunnites, donc, c'est les partisans de des trois premiers califes, bien sûr, ils associent par la suite à Ali. Pour les écoles, il y a quatre écoles canoniques, c'est-à-dire des écoles qui sont reconnues canoniquement. Donc, la première, la plus ancienne, la plus ancienne a été fondée, donc c'est l'école Hanafite, a été fondée par Abu Hanifa al-Nu'man, donc qui est un théologien, législateur iranien qui a vécu en Irak. La particularité de cette école, c'est l'importance qu'elle donne au jugement individuel, pas le jugement au dernier jour, c'est-à-dire à la participation de la personne dans les jugements, dans l'évaluation des choses. C'est-à-dire, ce théologien, il n'est pas libéral, hein, très, très fidèle, mais il arrive à des conclusions qui l'ont donc dirigé à dire que lorsqu'on traite d'un sujet, par exemple, faut-il porter le voile en France, à Paris, lorsqu'on traite d'un sujet, il dit, bien sûr, il y a ce que dit le Coran et les hadiths, mais il y a ce que pense aussi le croyant. Il faut que le croyant entre en dialogue avec ce que disent les textes. Et on arrive à une synthèse. Et il pousse son jugement, il pousse son raisonnement plus loin en disant que même pour le jugement dernier, lors du jugement, Dieu va proposer une sentence au croyant, mais le croyant est invité à dire son mot sur son propre jugement. Pourquoi pas négocier ? Mais c'est vraiment, enfin, je le dis un peu avec moi, un peu avec humour, mais c'est exactement ça ce qui a été développé. Et cette école-là est très favorable pour les musulmans, par exemple, non arabes, et ce qui fait à peu près un tiers hein, des musulmans, et ils sont en Irak, ou en Syrie, ou en Afghanistan. Et il faut savoir que les indications que je vais donner là sont avant l'arrivée de l'État islamique, etc. Donc c'est jusqu'aux années 80. Après, malheureusement, maintenant, ça a chamboulé, on ne sait plus qui est qui. Mais jusqu'aux années 80, à peu près, on était un petit peu... La Turquie, par exemple, ou bien le sous-continent indien, toutes ces régions-là sont influencées par cette école Hanafi. Vient ensuite l'école Malikite, qui doit son nom à son fondateur, Abu Abd Malik ibn Anas. Donc, lui aussi, il est le premier à rassembler les hadiths. Donc, a été voir auprès des gens qui ont vécu au temps de Mohammed en disant qu'est-ce que Mohammed a dit, ceci, cela. Et donc, il était le premier à rassembler les hadiths, ce qui va devenir par la suite donc, des hadiths. C'est un docteur donc, de la loi musulmane. Et il fait une place, lui fait une place très importante pour les coutumes des régions. Pour lui, l'islam de l'Orient ne doit pas être pareil que l'islam de l'Occident. Ça serait une erreur. Ce serait ne pas tenir compte de la réalité du contexte. Il ne va pas jusqu'à parler de la contextualisation de la foi. Quand j'emploie le terme de contextualisation, c'est dans le sens théologique chrétien. Il ne va pas jusque-là, mais très franchement, il n'était pas très loin. Et cette école, on la retrouve par exemple dans la Haute-Égypte. Vous savez que la Haute-Égypte, elle n'est pas en haut, hein, elle est en bas. Voilà. Donc dans la Haute-Égypte, et puis au Soudan, l'Afrique du Nord, l'Afrique occidentale, et même ici, en Europe, jusqu'aux années 80. Et puis vient la troisième école, c'est l'école Shafi'ite, qui se réclame donc du théologien Abu Abdullah Muhammad bin Idris Shafi'i, et qui a été l'un des disciples de l'école de Médine, qui est très grand traditionnaliste, qui dit, c'est lui qui commence à dire, bah, écoutez, il faut mettre la Sunna et le Coran au centre, donc pas question de la participation individuelle au discernement de la vérité, de la volonté de Dieu. La volonté de Dieu est décrite dans le Coran et les hadiths, et c'est les Corans et les hadiths qui doivent être appliqués. Et pas question non plus de laisser la place pour les cultures. C'est les Corans et les hadiths qui doivent diriger un petit peu, orienter l'islam, quelle que soit la culture et quelle que soit l'époque. Mais il reste quand même un peu modéré. On trouve cet islam-là, par exemple, en Philippines, en Malaisie, en Indonésie. Et enfin vient une école qui va encore plus loin. C'est l'école Hanbalite, qui doit son nom, bien sûr, Ahmed bin Mohammed ibn Hanbal, donc qui est formé lui aussi à Bagdad, un grand traditionnaliste. Et lui, c'est l'unité divine. À partir de l'unité divine, donc Dieu est un, à partir de l'unité divine, il tire des conclusions. Il faut que tout soit pareil. Et pour lui, l'islam idéal est vécu où ? À Médine pendant entre 622 et 630. Donc, il faut absolument reproduire cette société-là à l'identique partout et en tout le temps. Question de tenir compte de contextualisation, etc. Non, c'est cette société qu'il faut reproduire. Si à l'époque, les gens marchent avec se transporte au chameau, il faut prendre, voilà, il faut prendre des chameaux. C'est à l'époque, d'ailleurs, il y a, vous savez, le roi de l'Arabie Saoudite récemment, enfin, les années 80, et il a fait toute une rencontre où il a invité certains de cette école, en train de dire, eh bien, écoutez, on veut faire, on veut revenir aux traditions de l'époque. Le problème, c'est qu'ils sont tous arrivés avec des Mercedes derniers décrets. Et après, il a demandé à ses conseillers, il leur a dit, bah, écoutez, vous savez, allez-y remplacer les Mercedes par les chameaux. Et à la fin de la réunion, lorsqu'ils sont sortis, ils se retrouvent face à des chameaux. Ils se disent, mais finalement, peut-être que ce serait bien de nous remettre quand même nos voitures. Pour leur montrer un peu l'absurdité de la chose. Mais ceci dit, ils continuent quand même à penser, à rester, cette école continue à avoir de l'influence. Au début, un peu. Mais par la suite, elle va être justement, elle va être revisitée, et je vous dirai les raisons. Et ça me permet d'aborder le dernier point, c'est les courants donc dans l'islam. Le premier, c'est les Mu'tazilites. Donc ça, c'est les quatre écoles canoniques, hein, qui sont canoniques. Maintenant, les courants sunnites, il y a d'abord les Mu'tazilites. Les Mu'tazilites, si on doit les présenter brièvement, c'est vraiment ceux qui disent la foi, pour avoir accès à la vérité, il faut passer par la raison. La foi doit être soumise à la raison. Il n'y a pas de foi sans raison. Tout ce qui ne peut pas être raisonné est raisonnable, donc tout ce qui ne peut pas être raisonné doit être rejeté. Par exemple, par le moyen herméneutique, donc où la raison vraiment est au centre, ils arrivent à dire, par exemple, le moyen le plus sûr de parvenir à la vérité de la foi, c'est la raison. Le consensus est accepté à condition qu'il n'y ait pas de contradiction. Bien sûr, tout ce qui est ésotérique, etc., tout cela est rejeté. Tout ce qui est mystique, etc., tout cela est rejeté. Le devoir de l'effort personnel. Tout croyant doit raisonner. Il a l'obligation de raisonner. Il n'a pas accepté ce qu'on lui dit, y compris son imam, passivement. Il doit participer à la réflexion. Même s'il écoute le prêche, la prédication de son imam, il doit raisonner pour l'intégrer, de quelle manière l'intégrer, etc. Et donc, c'est dans, sur cette base-là, ils arrivent à un certain nombre de doctrines, par exemple. Je vous ai dit tout à l'heure, dans la conception coranique, si on reste sur les textes, le Coran se présente comme continuité de cette parole préexistante auprès de Dieu, mais pour les Mu'tazilites, le Coran ne peut pas être préexistant. Le Coran, c'est pas incréé, mais créé. Et l'une des raisons, c'est la Trinité, c'est la conception de la divinité, c'est l'unicité divine. C'est clair que quand on dit Dieu est un, et à côté de cela, on reconnaît la préexistence du Coran, de quelle unité pure ou stricte parle-t-on, hein? Et donc, eux, ils rejettent le fait que le Coran soit quelque chose d'incréé, mais ils disent que c'est un produit créé par Dieu pour l'humanité. Ensuite, le soufisme. Le soufisme, donc là, c'est vraiment pour eux, c'est un peu les spiritualistes de l'islam. Il y a, le plus important, c'est l'expérience personnelle. Et je vous promets, quand on entend certains témoignages, s'ils ne disent pas qu'ils sont musulmans, vous allez croire que vous êtes dans une église, où vous entendez un chrétien évangélique vous raconter son témoignage. Et pour eux, sur le plan herméneutique, il y a trois principes. Il y a la sharia, c'est-à-dire l'enseignement objectif, le Coran, la sunna, etc. Mais il y a tariqa, c'est-à-dire la voie mystique. Et cette voie, elle est personnelle à chacun. On ne peut pas dire que c'est la voie pour tous. Donc, c'est la voie chez chacun où trouve sa forme particulière d'accéder à cette vérité, à la vérité révélée. Et puis le troisième principe, c'est ce que j'appelle haqiqa, c'est la vérité, mais la vérité subjective, la vérité telle qu'elle est découverte par chacun dans son cheminement personnel. Et il parle, il n'hésite pas à parler de la nouvelle naissance, y compris de Jean 3, à prendre l'exemple de Nicodème comme un enseignement qu'il faut absolument considérer sérieusement dans cette lignée-là. Donc on ne se limite pas simplement au Coran, hein, à l'islam. Enfin arrive un dernier mouvement qui est le wahhabisme, et je vais essayer d'aller rapidement. Et le wahhabisme, ça vient donc au 18e siècle, on est au 1703, qui est fondé par Mohammed Abd al-Wahhab. Initialement, lui, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, on reprend les thèses de la quatrième école, de Hanbalisme. Il dit, on reprend les thèses de la quatrième école, et il faut absolument respecter à la lettre ces thèses-là. Et il développe ce mouvement de wahhabisme. Initialement, il a été chassé un peu partout, mais il va prêcher, il rencontre quelqu'un, un homme. Il rencontre, il écrit d'abord un livre, il s'appelle le traité de l'unicité divine. C'est vraiment le fondement, hein, c'est le traité qui traite l'ouvrage, qui est considéré comme la référence, hein, du wahhabisme. Et il a été persécuté, rejeté, etc. Mais il va croiser quelqu'un, Abd al-Wahhab, qui va devenir il va croiser Mohammed al-Saoud, là on est au 18e siècle, qui va donner simplement la dynastie de l'Arabie Saoudite, hein, royale de l'Arabie Saoudite. Et tous les deux vont fonder donc une théocratie où le wahhabisme assure l'enseignement religieux et la famille Saoud assure le pouvoir royal. Et c'est comme ça qu'il y a une fondation donc d'une théocratie en quelque sorte en Arabie Saoudite. Et jusqu'au 19e, début du 20e siècle, cet enseignement wahhabisme est resté en Arabie Saoudite. Mais par la suite, il s'est développé dans un mouvement qu'on appelle le salafisme, que vous connaissez maintenant, hélas. Et ce mouvement salafiste, donc, il s'est développé au 19e siècle, qui se veut réformateur de l'islam. Et il y a deux tendances. La première qui est un peu, très rapidement, a été surplantée par la seconde. Et la seconde, elle dit ceci. Ils sont des littéralistes à fond, une lecture littéraliste, et parfois même vraiment aveugle des textes. Il faut absolument appliquer d'une manière littérale tout ce que Mohammed a vécu pendant la période de Médine. On distingue trois formes de salafisme. D'abord, le salafisme quiétiste, qui consiste à dire on va sortir de la société pour vivre seul. Souvent, il y en a comme ça, y compris en France, hein, certains qui sortent et qui vivent entre eux. Et puis, le salafisme politique, comme par exemple dans des pays comme les frères musulmans, etc., ils s'impliquent, ils s'engagent sur la scène politique. Et après, il y a le salafisme djihadiste. Et là, le salafisme djihadiste, malheureusement, c'est un peu ce qui ont frappé tous les mouvements terroristes, l'État islamique, c'est ça, hein, vraiment dire, l'Irak, je suis un peu fatigué. L'État. C'est ça l'État islamique, hein. Se base sur ce mouvement et puis sur cette mouvance salafiste donc djihadiste. Après bien sûr Al-Qaïda, beaucoup arabes et malheureusement aussi tous les jeunes qui ont frappé aussi l'Europe, la France, Paris en particulier ces dernières années. Voilà, donc voyez que la conception, un peu les différentes écoles théologiques dans l'islam, les différentes bases scripturaires de l'islam, c'est très complexe, on se rend compte que c'est vraiment très complexe, et je pense que nous devons nous efforcer autant que possible, hein, nous ne sommes pas appelés tous à devenir des islamologues, mais autant que possible à tenir compte de cette diversité pour ne pas les confondre et pour surtout bien adapter notre témoignage et apporter un message d'une manière subtile comme l'apôtre Paul le fait, passer de Dieu inconnu au Dieu créateur révélé par Jésus-Christ. Voilà, merci pour votre persévérance.